Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et nous évoquerons évidemment le coronavirus dans ce journal, car un expert de l'OMS estime que le monde n'est pas prêt à y faire face. Le nombre de pays touchés augmente encore. Vous entendrez comment font les entreprises de transport pour éviter la propagation du virus.
Dans cette édition aussi, nous prendrons des nouvelles de la chercheuse française incarcérée en Iran. Fariba Adelra a été hospitalisée.
L'article 49.3 de la Constitution en France pour faire passer la réforme des retraites. Le Premier ministre n'y est pas fermé, mais les débats doivent continuer. D'ici là, des députés de la majorité sont soulagés, nous y reviendrons.
Et puis nous nous intéresserons à la pollution dans le monde de l'art, du transport des œuvres par avion jusqu'au gaspillage. Il y a quand même du mieux ces dernières années.
Après ce journal, Frédéric Seyss nous rejoindra pour son billet politique consacré ce matin aux actions AXA du député Jacques Maire et aux exigences contradictoires de notre système politique. Mais d'abord, rejoignons notre envoyé spécial à la frontière turco-syrienne ce matin. C'est non loin de là que le régime syrien et son allié russe frappent sans relâche la région d'Idlib. Ces djihadistes, ces rebelles et leur allié turc. Les bombardements ont déjà fait fuir près d'1 million de civils en 3 mois. 400 civils ont été tués. Ceux qui ont fui leurs habitations s'entassent à la frontière avec la Turquie dans des conditions déplorables. Écoutez ce reportage d'Aurélien Colli.
Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau, pas d'abri. Les gens dorment dehors, les enfants sont en train de mourir. C'est catastrophique. Témoignage de Hassan, recueilli au poste frontière de Reyhanli, où ne passent que les militaires turcs qui vont renforcer leur position à Idlib, quelques ONG qui opèrent encore dans l'enclave, et de rares Syriens comme Hassan qui bénéficient d'un laissez-passer. Les hôpitaux sont bombardés, les écoles où s'entassent des déplacés aussi. Tout le monde s'est retranché près de la frontière pour être plus en sécurité. Ajoute ce médecin au visage marqué par la fatigue et le désespoir. Le régime et son allié russe poussent les civils vers la frontière. Ils sont près d'1,5 million désormais, juste de l'autre côté, derrière les collines, confirme Mustafa Özbek, responsable d'une ONG turque qui ne s'attend pas à l'ouverture prochaine de la frontière. 4 millions de réfugiés vivent déjà ici en Turquie. Si ces civils passent, ce sera très difficile à accepter pour les Turcs. Beaucoup essaieront aussi d'aller en Europe, souligne l'humanitaire avant de lancer un appel. Nous avons besoin de la France, de l'Allemagne, de l'Europe, de l'ONU avec la Turquie pour trouver une solution et faire stopper ces attaques contre les civils. Ils réclament l'instauration d'une zone de sécurité où ces populations seraient enfin protégées et aidées.
C'était Aurélien Colli, alors qu'hier soir, 20 civils encore ont été tués à Idlib par le régime syrien qui a repris la ville symbolique de Kafranbel. C'était l'une des premières villes à s'être ralliée en 2011 à la contestation anti-Bachar el-Assad. Un nombre de morts au plus bas en Chine hier, mais une contamination qui explose ailleurs dans le monde. L'épidémie liée au nouveau coronavirus prend une nouvelle tournure depuis quelques jours. En Italie, plus de 300 personnes sont contaminées, 11 sont mortes, autant en Corée du Sud, 15 décès sont comptabilisés en Iran, et maintenant la Croatie, l'Autriche, la Suisse sont touchées. En Afrique, après l'Égypte, c'est l'Algérie qui compte un premier cas. L'Organisation mondiale de la santé prévient donc, le monde n'est pas prêt à faire face à cette épidémie. C'est son chef de mission qui le dit, Jérémy Lanche.
Le docteur Bruce Hayward a passé 2 semaines en Chine. Avec d'autres experts, il s'est rendu dans plusieurs provinces, notamment celle de Hubei, l'épicentre de l'épidémie. Et son constat est clair, oui, on peut se débarrasser du Covid-19, à condition de prendre des mesures drastiques et de se tenir prêt, comme la Chine l'a fait. Pour l'épidémiologiste, la première erreur, ce serait de s'avouer déjà vaincu.
On voit tous les jours des annonces sur l'apparition du virus à un nouvel endroit, une nouvelle épidémie. Et les gens disent, on ne peut rien faire. Ou alors, est-ce que c'est une pandémie ou pas ? Je suis désolé, mais est-ce qu'à la place, on n'irait pas plutôt vérifier si on a une centaine de lits à disposition pour les malades ? Est-ce qu'on peut isoler totalement une aile dans un hôpital ? Est-ce qu'on a une trentaine de systèmes de ventilation pour ces malades à l'isolement ? Est-ce qu'on a identifié la centaine de personnes qui ont été en contact avec les malades ? Il y a plein de choses concrètes à faire, et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer.
Et l'expert d'en remettre une couche, il faut que chaque pays se prépare comme si la maladie allait arriver demain, dit-il. Un message martelé depuis le début par l'OMS qui se plaignait déjà il y a quelques jours de ne pas être assez entendu par les États. Quant au risque que le nombre de malades soit plus élevé que la réalité, là, Bruce Hayward botte un peu en touche en affirmant que les données à sa disposition montrent le contraire, tout en rappelant qu'il pourrait très bien dire l'inverse dans quelques jours. C'est peut-être la seule véritable certitude avec le Covid-19, toute prédiction est vouée à l'échec.
Car effectivement, les symptômes de la maladie ne se déclarent pas toujours. Il est donc difficile de les arrêter aux frontières. Elles ne seront d'ailleurs pas fermées en Europe. Voilà ce que disaient hier les ministres de la Santé européens. Dans les transports, certaines mesures ont été prises tout de même, Annabelle Grelier.
Les contrôleurs français de la SNCF travaillant sur la ligne de TGV Paris-Milan ne vont plus jusqu'en Italie, mais descendent à la frontière où ils sont relayés par leurs collègues italiens, a indiqué hier la direction de la SNCF, expliquant cette décision par la progression du coronavirus dans la péninsule. Une première mesure de précaution qui reste insuffisante pour Sudrail, qui a déposé hier un droit d'alerte. À l'initiative Reynald Spitalnik, il est contrôleur sur la ligne Paris-Milan.
Pour nous, cette mesure ne répondait en rien au risque sanitaire que nous dénonçons, puisque les clients font un trajet international et vont et viennent de zones qui sont infectées. La première alerte sanitaire qu'on a lancée par mail, c'était le 25 janvier 2020. Encore une fois, on est juste un mois après, quoi, avant qu'ils commencent à bouger. Alors après, effectivement, le commercial vitrine de la SNCF avec un masque de protection et des gants qui va au contact de la clientèle, ça leur plaît pas. Mais est-ce que l'image est plus importante que la protection ?
Les droits d'alerte se multiplient dans les transports. Un autre a été déposé pour la gare de Lyon. Ou encore dans le métro, l'UNSA dit avoir activé la procédure d'alarme sociale. Elle demande la mise en place de préconisations pour les agents de la ligne 11, dont un conducteur revenant d'Italie a été placé en quarantaine. Le droit d'alerte n'est pas le droit de retrait. Les syndicats ne demandent pas l'arrêt de la circulation des trains, mais ils déclenchent une enquête pouvant contraindre l'entreprise à prendre des mesures de protection.
On peut considérer que la France, par rapport aux autres pays européens, fait un petit peu figure d'amateurisme au niveau des mesures de prévention des risques. Enfin, il bouge un petit peu, mais c'est encore pas suffisant. Parce que des clients de mon train, quand j'arrive à Paris-Gare de Lyon, ils prennent des correspondances dans d'autres trains, où ils prennent le métro, le RER. Enfin, Gare de Lyon, c'est interconnecté avec tous les autres modes de transport, quoi.
Pas question de fermer les frontières ou de limiter les transports pour les autorités. Les ministres de la Santé réunis à Rome hier ont décidé que les voyageurs passant les frontières en train, en autocar ou en avion recevraient des informations spécifiques au retour des régions à risque.
Et c'est d'ailleurs en revenant de Lombardie en Italie qu'un homme a contracté le virus sur le sol français. Il est hospitalisé en Auvergne-Rhône-Alpes. Une jeune chinoise qui revenait de son pays est également testée positive, mais le secrétaire général de la Santé précise que tous les deux vont bien à l'heure actuelle. Nous évoquions le nombre de morts grandissant en Iran à cause de ce virus. Voilà qui inquiète un peu plus les proches des deux chercheurs français qui y sont emprisonnés depuis 8 mois et dont le procès pour propagande contre le système doit se tenir la semaine prochaine. Fariba Adelra a été hospitalisée il y a quelques jours. Ses reins sont abîmés, sans doute à cause de la grève de la faim qu'elle a menée ces 2 derniers mois. Jean-François Bayard, chercheur au CNRS, membre du collectif de soutien, ne cache pas son inquiétude.
L'hospitalisation de Fariba Adelra est extrêmement préoccupante. Selon son avocat, son état de santé s'est sérieusement dégradé. Cela semble plausible car celle-ci ne paraît pas avoir bénéficié du traitement adéquat post-grève de la faim. D'une part, la prison d'Evin n'était pas en mesure de lui fournir ce traitement et d'autre part, elle n'autorisait pas la famille à lui remettre les médicaments. Les autorités iraniennes sont entièrement responsables de la santé et de la vie de Fariba Adelra, singulièrement dans un contexte où le pays est frappé par une importante épidémie de coronavirus qui n'épargne pas même les autorités ministérielles de la République islamique, puisque nous avons appris que le vice-ministre de la Santé était lui-même contaminé.
Des propos recueillis par Franck Madvon. On ne connaît pas exactement le nombre de personnes contaminées en Iran. Téhéran, qui sera par ailleurs au cœur de discussions ce mercredi à Vienne, en Autriche. Les représentants européens, chinois et russes veulent trouver un terrain d'entente sur son programme nucléaire. Nous évoquions hier ici même les violences intercommunautaires en Inde autour d'une loi sur la citoyenneté qui exclut les musulmans. Ces violences ont fait au moins 20 morts, 150 blessés en 2 jours. Les habitants de New Delhi redoutent une nouvelle journée d'affrontement aujourd'hui.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Édouard Philippe ouvre la porte au 49.3.
Oui, le Premier ministre estime que l'utilisation de cet article de la Constitution permettrait de respecter le calendrier prévu pour la réforme des retraites. Elle serait adoptée de facto sans les députés, mais cela se fera le cas échéant. Voilà ce que dit Édouard Philippe. Il souhaite d'ici là que la majorité puisse débattre dans l'hémicycle de l'Assemblée. Une décision saluée par Éric Pouya, député LREM de Gironde. Il s'en explique.
Les Français sont pour l'instant très majoritairement opposé au 49-3. Ça n'apparaît pas comme un acte de respect du Parlement et de la démocratie. Donc c'est plutôt, moi je pense, une victoire pour les gens comme moi qui pensent qu'il faut d'abord laisser le temps et sa chance au débat parlementaire. Le Premier ministre s'est exprimé et il a dit très justement que c'était de la responsabilité du gouvernement et du Premier ministre donc. Et nous, en tant que parlementaires, notre responsabilité, c'est d'assumer le débat. On est dans un débat démocratique aujourd'hui puisqu'on est en période électorale. Les gens confrontent leurs projets dans les communes, confrontent leurs idées. Confrontons aussi notre idée sur la réforme des retraites.
C'était le député Éric Pouyer, interrogé par Armel Saugé. Le procès des époux Fillon débutera finalement aujourd'hui. Suspendu avant-hier par la grève des avocats, l'audience démarrera avec l'examen de points de procédure. François et Pénélope Fillon sont poursuivis, je vous le rappelle, dans l'affaire des emplois fictifs pour détournement de fonds publics. Au tribunal correctionnel de Paris, également un ancien homme d'affaires est jugé aujourd'hui. Pierre Botton, poursuivi pour escroquerie notamment. Le comble pour le chantre de la lutte contre la récidive. Florence Turm nous explique pourquoi.
En 1996, Pierre Botton, alors homme d'affaires en pleine ascension, est condamné pour abus de biens sociaux aux côtés notamment de son beau-père, le député maire RPR de Lyon, Michel Noir. Prison ferme, 602 jours de détention effectif. À sa sortie, il se lance dans un nouveau combat, rapidement médiatisé pour améliorer les conditions de vie des détenus. Un livre, une société au cœur des prisons, puis une association, Ensemble contre la récidive. Il travaille tour à tour avec les gouvernements Sarkozy et Hollande, imagine une prison expérimentale d'insertion à Saint-Julien-sur-Suran, dans le Jura. Le projet se heurte à l'hostilité de la population. Il ne verra jamais le jour. En revanche, Pierre Botton réussit à fédérer des personnalités de premier plan comme Yannick Noah ou Michel Drucker, emporte l'adhésion de grandes entreprises pour des actions de mécénat. Jusqu'à ce signalement de Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère des Finances, qui note des mouvements de fonds suspects entre son compte personnel, sa société et l'association. Pierre Botton conteste les faits qui lui sont reprochés par le parquet et qui font étrangement écho à sa condamnation de 96. Elle pointait le montage de sociétés qui lui avait permis, par une facturation fictive, de se constituer un patrimoine et d'entretenir des relations avec les milieux politiques et médiatiques qu'il aimait fréquenter. L'association Ensemble contre la récidive n'existe plus depuis 2018. Sur la page de son site, elle indique avoir atteint son objectif et décidé de mettre fin à ses activités.
Les délits écologiques davantage pris en compte par la justice en France, c'est un texte de loi qui arrive devant le Sénat aujourd'hui. Parmi les mesures de ce texte, notons la création d'une procédure de plaidé coupable pour les entreprises. Elles éviteraient un procès, mais devraient payer une amende et mettre leurs installations aux normes. Mieux prendre en compte les questions environnementales, c'est aussi un refrain que l'on entend davantage dans le monde de l'art. Avec 200 événements éphémères artistiques organisés chaque année dans le monde, on ne peut pas dire que son empreinte carbone soit la meilleure, Margot Delpierre.
Il y a beaucoup de choses à améliorer, entre les œuvres qu'on expédie par avion, leurs caisses faites souvent sur mesures pour le transport et qui ne sont pas réutilisées, les vitrines, les installations jetées une fois l'exposition terminée. Des événements qui attirent des visiteurs et des collectionneurs du monde entier. Ils étaient 75 000 l'an dernier à se rendre à la FIAC, la réputée Foire internationale d'art contemporain de Paris. Pour Emmanuel Fessy, chroniqueur au Journal des Arts, ce modèle n'est plus tenable.
Le business de l'art doit afficher des valeurs écologiques. Puisque les artistes se préoccupent de ces questions, se préoccupent de du réchauffement climatique. Les artistes ont besoin que leur travail soit diffusé, ont besoin que leur travail soit collectionné, que leur travail soit vendu, mais effectivement, ça doit être, je dirais, en adéquation avec les valeurs qu'ils peuvent défendre.
Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon lui, et pas seulement les compenser en finançant par ailleurs des projets écolos, comme a décidé de le faire Art Basel, la société qui organise les foires d'art contemporain de Bâle, Hong Kong et Miami. Les procédés commencent toutefois à changer. La FIAC de Paris assure avoir recyclé 44% de ses déchets l'an dernier. La moquette sur les stands a aussi droit à une seconde vie. Cette année, elle veut aller encore plus loin en réduisant autant que possible l'emploi de matériaux non recyclables et rappelle que tout ce qui est mis à disposition des galeries est réutilisé d'une édition à l'autre. D'autres lieux culturels prennent la question au sérieux. La Bibliothèque nationale de France, par exemple, pionnière depuis 2007, elle respecte un cahier des charges strict. le bois vient uniquement de forêts durablement gérées. Au Louvre, un quart des 1200 tonnes de déchets annuels est recyclé.
C'était Margot Delpierre pour France Culture. De la pluie sur quasiment tout le pays, sauf sur les côtes de la Méditerranée. Voilà dans l'ensemble la météo du jour, avec des températures plus hivernales et des flocons attendus sur l'Est. Ce matin, il fait 4 degrés à Strasbourg, à Lille et à Lyon, 5 degrés à Paris, 7 à Brest et Bordeaux, 14 à Nice.
Merci Clara Lecoq-Réal.